おかしい、おかしい。
Heureux de vous retrouver dans cette tribune de la presse. Retour sur les faits marquants de la semaine qui s'achève. Mardi dernier, travailleurs et travailleuses étaient en fête, mais salaire modique, irrégulier ou pas du tout, c'est la situation de certains employés en RDC. Pas d'emploi, c'est la réalité en face de ceux qui en cherchent. Le Premier ministre Antoine Gizenga promet un forum sur l'emploi. Nous en parlerons. Les ONG de défense des journalistes classent la RDC dans la catégorie médiocre en ce qui concerne la liberté de la presse ces 5 dernières années. Elle le disait à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée jeudi dernier. Et pour l'occasion, à Kinshasa, les chevaliers de la plume ont visité CCTV et Canal King. Ces chaînes proches du sénateur Jean-Pierre Bemba ont été pillées lors des événements de mars dernier. Dans l'actualité de ces 7 derniers jours, on retient aussi la suspension des responsables de la régie des distributions d'eau et de la Société nationale d'électricité. Suspension qui survient 2 semaines après le passage à l'Assemblée nationale sur motion du député Takiza Lamassoso. Nous reviendrons donc sur tous ces faits avec nos confrères de la presse. Fidèle Moussangou du journal Le Phare, avec dans ses studios Claude Perrault-Louhara du Digital Congo, en ligne de Bukavu, Deo Namujimbo, responsable de l'agence Sifia Grand Lac, et depuis Washington au téléphone, Ferdinand Perella, rédacteur en chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Nous disons donc bienvenue à vous tous.
Merci. Merci.
Trompette, tambour et cymbales retentissaient dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Les ouvriers étaient à l'honneur ce 1er mai, à l'honneur, mais beaucoup ne sont pas honorés par leur travail. C'est pour le montrer que certains agents de l'État à Kindu ont marché pieds nus avec des habits en lambeaux. Je propose d'écouter Assani Wakapinga, secrétaire de l'intersyndicale du Maniema, au micro de Rigobert Younandouani.
L'ensemble de tout ça, c'est une expression des travailleurs. Ils expriment leur malheur, leur vie. Parce qu'au marché, le pouvoir d'achat, ils n'en ont pas. Parfois, on les paye d'une manière la médiocre, avec des billets non utilisés. Les billets qui sont refusés au marché. Autre chose, avoir de babouche, avec quel salaire pouvait-il s'habiller convenablement et présenter la fierté, l'honneur même de celui qui les paye. Voilà la raison pour laquelle ces travailleurs-là ont exprimé leur malheur. Et ils invitent l'exécutif à faire mieux, à se couper en quatre pour que leur vie soit une vie d'un professionnel.
Alors, Claude Perrault-Louhara, salaire, travail, médiocrité, pas de paiement, contraste.
Exactement, le salaire, le travail a pour objectif de procurer bonheur. Quand on travaille pour enfin recevoir un salaire et puis avec ce salaire-là pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins, mais également être respecté dans la société. C'est un véritable contraste. Contraste, comme vous l'avez dit ici chez nous, que les travailleurs qui travaillent sérieusement ici chez nous ne puissent pas recevoir un salaire décent qui leur permet, bien entendu, de pouvoir nouer les deux au bout du mois. C'est très regrettable cette situation. Moi, je comprends effectivement très clairement la manière de manifester de tous les travailleurs de Kindu, vous avez dit.
Oui, Kindu, mais est-ce qu'on peut dire que les travailleurs, avec la tautologie, travaillent sérieusement ou ils font semblant de travailler?
Non, moi, je crois qu'ils travaillent. Si vous estimez qu'ils font semblant d'y travailler, c'est que l'employeur ne leur donne pas la chance de travailler. Regardez dans quelles conditions les travailleurs, comme vous, on passe moi aussi la technologie, travaillent ici en République démocratique du Congo. Pas d'infrastructure, pas de bureaux, pas de conditions pouvant permettre à tous ces travailleurs-là de pouvoir bien exercer leur travail comme il faut. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, avec le 1er mai, il ne suffit pas seulement de fêter. Mais encore faudra-t-il, moi, j'aurais voulu qu'à l'ordre de la Troisième République, pendant que cette Troisième République commence, au lieu de fêter avec fanfare cette fête, parce que moi, il fallait plus d'autotologie, au lieu de célébrer la fête avec beaucoup de fanfares et en pompe, comme on l'a fait, j'aurais voulu que cette manifestation se fasse en méditation, qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse. Ça fait plusieurs années que cette situation dure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la situation des travailleurs de la République démocratique du Congo, qui, il faut le dire, se trouvent dans une situation de misère exceptionnelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, enfin, un fonctionnaire qui travaille puisse toucher son salaire le 30 de chaque mois et que ce salaire puisse lui permettre de payer les études de ses enfants, de pouvoir venir à ses besoins? Je crois qu'il fallait rester à la maison, il fallait fêter avec méditation pendant qu'on amorce la Troisième République et pouvoir trouver des pistes et des solutions pour aider les travailleurs à sortir enfin de cette misère.
Deo Namujimbo, vous nous suivez depuis Bukavu. Dites-nous, il y a eu aussi des défilés là-bas.
Oui, le mardi dernier, c'était un défilé monstre à Bukavu. Toutes les entreprises, tous les services ont défilé. Il y a eu des milliers de gens dans les rues de Bukavu, sur la principale artère de la ville.
On peut retenir aussi que tout juste après, les agents de Digérald, par exemple, à Bukavu, ont lancé le mot d'ordre des grèves.
Oui, ils sont en grève. Bon, ce matin, hier matin déjà, il était prévu qu'ils rencontrent le gouverneur, mais je ne sais pas s'ils vont trouver une solution à leurs revendications jusque-là. Mais pour ceux qui vont revenir à la journée de dimanche, de mardi dernier, la fête du travail, c'était un beau défilé, tout le monde était bien vêtu, mais quelque part, il y a des travailleurs qui après se sont plaints parce que, comme disait mon conseil qui vient de me précéder, ils se sont dit pourquoi organiser de beaux défilés quand les gens ne sont pas payés, quand les enfants mangent mal, ils ne vont pas à l'école. Parfois, les directeurs de services ont dépensé beaucoup d'argent pour le prestige de la journée, mais le lendemain, déjà, il manquait du papier dans certains bureaux. Et il y a même des travailleurs qui m'ont dit qu'ils avaient préféré que le chef de leur entreprise achète un minibus parce qu'il y a des gens qui viennent des cabarets à 15 km de la ville et de même plus loin pour être au travail le matin. Alors, ils se sont dit à quoi ça sert de faire de beaux défilés, de racheter de beaux habits pour une fois. Mais bon, ces habits, c'est eux qui vont les porter, mais pas leurs enfants, pas leurs femmes.
Alors, restez avec nous, Adéo Namujimbo, la liaison est bonne. Le Premier ministre était présent au défilé organisé à Kinshasa à l'occasion de la journée de travail. Antoine Gizenga promet un forum national sur l'emploi.
Si les emplois sont devenus rares, ceux qui existent sont précaires et ne garantissent pas la carrière de l'agent. Les charges sociales exorbitantes gênent considérablement le développement de nos entreprises et les privent ainsi de la possibilité de création de nouveaux emplois. J'ai déclaré solennellement lors de la présentation du programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale que l'emploi était priorité des priorités. Dans la recherche de la matérialisation de cette volonté politique, j'ai instruit le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d'organiser un forum national sur l'emploi. Ce forum a pour objectif principal d'aboutir à un diagnostic des stratégies qui permettent de créer les conditions favorables à l'accès facile des Congolais et des Congolaises à l'emploi.
Fidèle Msango, on vient d'entendre Antoine Gizenga et d'ailleurs Péro Louara le disait à l'instant, il faut réfléchir sur la façon de rendre le bonheur aux travailleurs et on vient d'entendre là Antoine Gizenga, ce sont quand même des intentions nobles.
Écoutez, il ne faut pas toujours répéter les mêmes choses. Les mots qui rongent le monde du travail sont connus depuis Mobutu. Ils sont connus. On ne va pas inventer la roue. Le Premier ministre de bonne volonté, oui, c'est des paroles en l'air. Ici, la question est d'abord de se rendre à l'évidence que nous sommes en face d'un crime contre l'humanité. Ce crime a commencé malheureusement avec Mobutu. Parce qu'avant, avec Kassavubu, les salaires étaient décents. D'ailleurs, à l'époque de Kassavubu, quels sont les emplois qui étaient recherchés? C'est enseignants ou fonctionnaires de l'État. Les emplois nobles. Et les gens étaient bien payés. Les gens étaient à l'aise. Les gens étaient logés.
Ah oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, ça a commencé avec Mobutu. Il a compris que là, il y avait de l'argent. Il a coupé. Il a fait une coupe terrible. Il a détruit l'administration. Il a détruit l'école. Il a détruit l'université et d'une manière systématique. Et réduire les gens à ce niveau de misère est indicible.
Alors, le forum proposé par Antoine Gizenga résoudrait
le
problème.
C'est une perte du temps. L'actuelle ministre du Travail, je lui rends hommage, est la première femme politique à avoir initié le code du travail actuellement, qui accorde $1 aux travailleurs. Mais c'est un combat. Les solutions se trouvent au ministère du Travail. C'est de chercher le financement régulier pour payer des salaires décents. Comment est-ce que des pays voisins comme le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi...
Alors, quand vous parlez de financement décent, vous entendez sûrement ce qui doit provenir des recettes de l'État.
Oui, il faut diminuer les dépenses politiques et les dépenses de souveraineté nette. C'est tout. Vous diminuez les dépenses politiques, vous diminuez le budget réservé à la présidente de la République, le budget réservé à la primature, à des ministères inutiles. Vous supprimez des ministères inutiles. Et vous avez des économies que vous allez renverser dans la fonction publique. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je serai la copie méchante de les confrères. La fête du travail au Congo, les autres disaient, on devait faire la fête du chômage ou la fête de l'informel. Parce que 8 Congolais sur 10 sont dans l'informel. Alors, vous allez fêter quel travail? À part quelques compagnies cellulaires, quelques compagnies de pétrole, il y a du travail. Les fonctionnaires, s'il vous plaît, travaillent. Les enseignants travaillent. Mais ils vivent de quoi? Ils vivent sur les parents.
Mais quand on va dans les bureaux de l'État, on ne trouve pas les fonctionnaires.
Ils sont là, ils sont toujours à côté.
Oui,
quand vous avez un document administratif, ils sont là. Vous cherchez votre zone d'essence, vous l'avez, mais vous devez payer 1000 francs, 2000 francs, parce qu'il doit vivre.
Et il ne verse pas dans la caisse de l'État.
Pourquoi verser la caisse de l'État qui ne paye pas? Il ne faut plus verser dans la caisse de l'État. Pour verser dans la caisse de l'État, c'est l'argent bouclé par quelqu'un.
Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? C'est-à-dire que les travailleurs font semblant de travailler et l'État fait semblant de les payer?
Non, c'est l'État qui a failli à sa mission régalienne. C'est-à-dire de payer, d'assurer les paiements. C'est l'État. Mais je n'ai pas l'État. Ce sont les agents chargés de fonctionner les instruments qui sont à la base des écumes contre l'humanité. Alors, les agents, pourquoi aller payer l'argent? Vous reversez, écoutez, je vais donner un exemple à Déjarade. On me dit qu'on vient de la saison. Oui, parce que.
Et qui s'en gagne aussi.
Parce que l'argent, les recettes réalisées, des recettes énormes, sont volées par qui? Sont par les agents, par les autorités.
Ferdinand Perella, vous êtes avec nous à New Washington. Est-ce qu'il y a une autre façon de sécuriser l'emploi de ceux qui travaillent et d'en donner à ceux qui n'en ont pas?
Bon, tout d'accord, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire Fidel. Quand on célèbre le travail en RDC, en fait, c'est vrai ce qu'il dit, on célèbre surtout le chômage. J'ai eu l'occasion de parler cette semaine avec Marie-Ange Lucana du ministre du Travail, qui faisait remarquer que 80% de l'économie est dans le secteur informel. Ça ne veut pas dire que les gens dans le secteur informel ne travaillent pas, mais ça veut dire que leur travail n'est pas pris en compte. La valorisation du travail n'est pas là. Et donc, il va falloir à un moment donné aussi trouver des solutions concrètes au travail. Je suis heureux qu'on organise ce forum sur l'emploi parce qu'il va falloir décider d'où viennent les emplois. Jusqu'à présent, l'État congolais et la MONUC, je pense, sont pratiquement les principaux employeurs du pays. Il va falloir relancer les petites et moyennes entreprises. Il va falloir s'assurer aussi que les investissements qui se font au Congo par des groupes étrangers sont générateurs d'emplois. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que le Congo exporte essentiellement des matières premières. Et les matières premières, ce n'est pas un domaine où, à haute intensité du travail. C'est la transformation des produits qu'on obtient, des emplois qualifiés et des emplois surtout qui peuvent être permanents. Parce que l'autre problème, c'est les emplois précaires. Et donc, il va falloir revoir un petit peu toute la façon dont le Congo compte relancer l'économie. Parce que finalement, on ne peut pas avoir éternellement un État qui paye 80% de la population ou 70% de la population. Il va falloir que ces emplois proviennent du secteur privé. Et donc, pour ça, il faut relancer l'économie. Il faut qu'il y ait des garanties pour que les investissements étrangers s'exercent dans un cadre juridique solide. Il va falloir aussi faire en sorte que les petites et moyennes entreprises soient en mesure de fonctionner et qu'on supprime certaines charges sociales qui sont exorbitantes. On leur donne les moyens d'évoluer. Et c'est seulement à travers ce tissu économique que constituent les petites et moyennes entreprises qu'on arrivera à relancer l'emploi au Congo.
On a écouté Ferdinand Perella, Claude Perrault à Louara, les PME, les investissements privés, tel qu'il est dit. On a entendu aussi le président de la Confédération syndicale, Symphorien Dounia, se plaindre, je crois sur Radio 7, du fait que les étrangers ne prenaient pas en compte le code du travail.
Exactement, mais parce que les Congolais qui travaillent chez les étrangers ne sont pas protégés. Faites un tour ici vers Kato, vers Ouakadine, vous allez voir des Libanais qui, chez eux, ne peuvent pas faire ça, qui pratiquement maltraitent nos Congolais ici.
Mais c'est la faiblesse de l'État ou c'est la mauvaise foi?
C'est une situation qui dure et qui perdure. Il est temps que l'État puisse prendre les choses au sérieux. Il est temps que l'État puisse enfin protéger ses ressortissants. Il est temps que l'État prenne enfin ses responsabilités en charge. Vous avez parlé du forum préconisé par le Premier ministre, le forum sur l'emploi. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, au lieu de commencer d'abord à voir comment faire pour augmenter l'emploi, il faut d'abord faire un effort pour juguler la précarité dans laquelle se trouvent ceux qui travaillent déjà. Il y a un processus des réformes de l'administration publique qui est engagé, qui fait aujourd'hui une marche tortue. Moi, je crois qu'il faut focaliser toutes les énergies vers ce processus. Parce que vous parlez d'un problème de provenance des recettes et de ressources. Vous savez, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'aucun ministre qui passe à la fonction publique ne peut vous dire exactement quel est le nombre exact des fonctionnaires que vous avez ici dans les pays.
Il y avait un recensement qui a...
Un recensement qui n'a pas encore terminé. Un recensement, c'est ce que j'ai dit. Le recensement est une partie de ces longs processus de la réforme de l'administration publique. Un processus qui, aujourd'hui, fait un pas de tortue. On doit focaliser nos efforts sur cette réforme de l'administration publique qui nous permettra certainement de savoir qui est fonctionnaire. On a combien de fonctionnaires. Probablement qu'il y aura des fonctionnaires fictifs. Il y aura des fonctionnaires qui n'existent pas. Conséquence, c'est quoi? L'entreprise sera dégraissée. Vous pouvez prendre l'argent qui sortira de tous ces fonctionnaires fictifs. Vous les affectez aux fonctionnaires qui sont aujourd'hui. Et il ne faut pas seulement les affecter comme ça, mais il faut encore définir une vraie politique des payes. On ne paye pas les gens comme ça. On ne négocie pas les salaires des gens comme ça. Il faut s'asseoir, redéfinir la politique salariale en République démocratique du Congo. C'est seulement à ce prix-là que les fonctionnaires et tous les travailleurs peuvent éventuellement trouver un salaire décent pour bien vivre ici. Dans
alors, les travailleurs, nous faisons aussi partie de cette couche. Nous allons parler de nous-mêmes aussi. Le Comité pour la protection des journalistes, une ONG internationale, classe la RDC parmi les états de la honte en ce qui concerne la liberté de la presse. La République démocratique du Congo est troisième au top des 10 mauvais élèves. Il s'agit d'une détérioration de la situation ces 5 dernières années avec des assassinats, des harcèlements judiciaires et des emprisonnements. Écoutons Robert Bahomé de l'ONG Comité pour la protection des journalistes au micro de Kelly Kouté.
On s'est servi de 7 critères pour dresser cette liste. Les critères sont le meurtre des journalistes, et on a connu 2 journalistes qui ont été tués au Congo ces dernières années. L'emprisonnement des journalistes, les poursuites judiciaires pour diffamation pour faire taire les journalistes, les menaces contre les journalistes, les attaques physiques contre les journalistes et l'harcèlement judiciaire. Ce sont les critères qui sont à la base de cette liste. Ce sont les critères dont on se sert tout le temps pour recenser les attaques contre la presse et les violations de la liberté de la presse mondiale.
Monsieur Robert, pensez-vous que la situation de la presse dans des pays comme le Cuba, la Corée du Nord, l'Irak et le Soudan est mieux qu'en RDC?
La situation dans tous les pays est différente. Il y a une répression, mais la répression peut prendre des formes différentes dans les pays différents. Alors, nous, on fait tout pour défendre la liberté de la presse un peu partout dans le monde.
Voilà. Robert Bahomé de l'ONG Comité pour la protection des journalistes qui était interrogé par Kéline Couté. Déo, est-ce que vous avez aussi célébré cette journée de la liberté de la presse?
Nous avons bien fait ça. Il a été levé de presse de Bukavu et s'est réuni hier à la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. On a bien fait la journée et pendant 4 ou 5 heures, on était tous réunis.
Qu'est-ce que vous dites, vous, de la liberté de la presse à Bukavu? C'est calme, il n'y a plus de harcèlement?
Ce que je peux dire concrètement, c'est que bon, depuis 3 ou 4 ans, depuis la fin de la rébellion, donc il n'y a pas de harcèlement systématique contre les journalistes, il n'y a pas de cas isolés, mais on peut citer quelques enclaves, par exemple, la sensation que les journalistes ne font pas bien son travail, c'est notamment des enclaves sociales. Il y a beaucoup de maisons de presse, donc beaucoup sont nés avec les élections dernièrement. Il y a des candidats qui ont toujours sorti des radios, mais il y en a pour des besoins vraiment électoraux. Les journalistes se sont mal payés dans la plupart des maisons. On peut parler d'un charge matériel, parce que par exemple, il n'y a pas de. La plupart des maisons de presse n'ont même pas un véhicule, mais les journalistes ont du mal à aller chercher l'information. Parfois, toujours dans le matériel, il y a des maisons de presse qui trouvent, qui envoient un journaliste un reportage, mais qui doivent se débrouiller pour avoir des piles pour ce matériel, pour son enregistreur ou une cassette, par exemple. Et tout cela fait que le travail n'avance pas très bien. Mais évidemment, on peut parler aussi du manque de formation.
Oui, mais là, on peut dire que ce sont des problèmes de fonctionnement, mais en ce qui concerne la liberté, vous nous dites que la situation s'est un peu améliorée à Bukavu. Qu'est-ce qui peut justifier cela?
Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se plaignent. On n'a aucun journaliste en prison pour le moment. Il n'y a aucun journaliste qui a un dossier au parquet, pour l'empêchement de son travail. Et cela, ce sont des indicateurs. Mais il arrive que des journalistes soient attaqués la nuit, mais bon, c'est la sécurité qui règne partout. Même si parfois, il y a des militaires qui attrapent un journaliste et lui ravissent de l'argent sur le téléphone en disant: nous savons que vous êtes journaliste et que vous avez été payé aujourd'hui. On a connu des cas comme ça. Même si pas dire que une autorité militaire ou politique s'en prenne à des journalistes, ça non, c'est à dire.
Alors Fidel Msangou, je rappelle que vous êtes coordonnateur du journal Le Phare. Vous avez entendu notre confrère Deo Namujimbo ainsi que Robert Bahomé qui nous donnait les critères sur lesquels ils se sont basés pour établir cette position de la RDC. À qui la faute? Est-ce l'État qui terrorise les journalistes ou ce sont les journalistes qui font très mal leur travail?
Écoutez, il se pose un problème. Si le Congo, mon pays, est aujourd'hui au top des pays violateurs de la liberté de la presse, c'est parce que les actes de violation sont toujours posés par des agents des services officiels, notamment les services spéciaux de la police, l'ANR, la DEMIRP, et subsidiairement le PAKI. Pourquoi? Pour des raisons. Parce que la première, c'est que il y a une ordonnance signée par Mobutu qui conditionne la mise en accusation d'un agent des services de sécurité à l'autorisation de l'administrateur général des services de sécurité. Alors, ça les protège, ils peuvent se prendre faire n'importe quoi. Ils ne seront jamais déférés devant le juge, même pour des crimes. Ça fait un. Deuxième élément, il y a le fait que les autorités politiques, qui parfois sont derrière le parquet, sont immunisées. Nous avons le cas au Bas-Congo, le gouverneur qui vient de sortir a fait arrêter des journalistes pour des articles mineurs, des faits banals.
Mais alors, il est allé avec eux en justice.
Oui, mais quelle justice, mon cher ami? Quand c'est le gouverneur qui instruit le parquet prend le journaliste immédiatement aux arrêts. Alors, maintenant, pour que le dossier soit mis devant le juge, ça peut prendre 3 mois. Et quand vous tombez sur le juge, il vous ouvre le code pénal, imputation dommageable, infraction criminelle. Et les journalistes se trouvent avec 7 mois de prison. Troisième élément, il faudrait maintenant qu'on puisse instruire les tribunaux que si celui qui se plaint d'un article mal écrit, infamatoire, médiatisatoire, doit d'abord saisir les instances disciplinaires des journalistes. Qui existent? Il y a l'OMEC, il y a la commission de discipline dont je fais partie.
Oui, mais quand on voit aussi les rapports de l'OMEC, c'est que ils font toujours aussi des observations sur les
oui, mais journalistes. Nous avons...
Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité?
Attention, nous avons un domaine où les règles d'éthique et de déontologie ne sont pas fixées comme telles. C'est une question d'appréciation. Par exemple, aujourd'hui, je peux attraper, écoutez, je vois l'une des concubines d'un ministre qui est morte de sida. C'est connu. J'écris que le ministre est menacé de sida a atteint à ma vie privée. Ouais, les juges sont difficiles à apprécier. D'autre part, je peux dévoiler un complot. Vous savez, quand on a assassiné Kabila ici, la presse locale l'avait déjà senti, l'avait dénoncé. Mais qu'est-ce qu'on a fait des journalistes? On les a arrêtés, après, on a assassiné le président Kabila. Vous voyez, rien que ça, vous avez affaire à la justice.
Donc, selon vous, est-ce qu'il faudra peut-être réformer les lois?
Non, il faut d'abord, je dis, commencer par évoquer l'ordonnance qui protège les agents des services de sécurité. Deux, que le ministre de la Justice prenne la disposition, c'est une disposition, une circulaire qui avait été prise par un ministre, ne plus arrêter les journalistes, qu'ils soient entendus et conditionner leur audition devant le parquet par la saisine des instances corporatives de discipline. Ça fait deuxième pour protéger. Et trois, maintenant, renforcer, l'État nous doit, nous, la presse, l'État nous doit pour renforcer les structures disciplinaires. Si les structures disciplinaires sont renforcées, les journalistes feront attention. Ensuite, si l'État aussi intervient pour l'exécution des mesures disciplinaires. Vous savez, nous avons ici quelqu'un qui a été radié, qui continue à exercer, parce qu'il est protégé par une autorité. Nous avons, vous savez, c'était 4 ans.
Ferdinand Perella, la situation de la presse, la liberté de la presse en République démocratique du Congo est-elle aussi alarmante que le trace l'ONG Comité pour la protection des journalistes?
En tout cas, si on en croit les chiffres qui sont cités par Fred, journalistes en danger, la situation n'est pas réjouissante. Il y a eu depuis le début de l'année 25 27 attaques recensées contre des journalistes. Il y a eu ces deux journalistes qui ont été assassinés, Franck Nguité et François Mwamba. Il y a eu des procès, mais on n'a jamais véritablement essayé de chercher le mobile du crime. On a condamné des exécutants, mais qu'est-ce qui avait motivé ce crime? Qui l'avait commandité? On n'est jamais allé jusqu'au bout des choses. Il y a le problème des délits de presse au Congo encore, et je sais que j'aide à lancer une campagne pour dépénaliser les délits de presse. Et là, il y a beaucoup d'interrogations. Et il ne s'agit pas de dire que le journaliste est au-dessus de la loi et qu'il peut faire n'importe quoi. Il est, comme tout autre citoyen, redevable devant la loi. Il doit justifier ses actes. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'emprisonner un journaliste pendant 6 mois, comme c'est le cas de Bosangé Mbaka en ce moment, du journal Mambenga, je crois, qui est à la prison centrale de Kinshasa depuis 6 mois sans jugement? Est-ce qu'on doit absolument emprisonner un journaliste avant de le juger? C'est la question que je pose. On est surpris, par exemple, de l'empressement qu'il y a en RDC à poursuivre des journalistes pour délit de presse, mais par rapport, on ne trouve pas le même empressement à poursuivre d'autres personnalités pour délit de corruption ou pour délit de viol. Hein. 90% des viols ne font l'objet d'aucune poursuite. Donc, c'est toutes ces questions qui peuvent se poser. Est-ce que le journaliste est une personne à part dans la société? Je dirais oui ou non. Non, dans la mesure où il doit respecter les lois, mais oui aussi parce que c'est lui qui apporte l'information. Et c'est un minimum de liberté et de sécurité, parce que la question de la sécurité qui était au centre du débat cette année lors de cette journée internationale de la presse, sans qu'il y ait cette sécurité, eh bien il ne pourra pas fonctionner, il ne pourra pas informer ses auditeurs, ses lecteurs, ses téléspectateurs. Et donc il faut réfléchir maintenant à la façon dont on peut revaloriser le métier de journaliste, qui est essentiel, vous le savez, en tant que quatrième pouvoir dans une société démocratique. Et c'est toutes ces questions qu'il faut se poser maintenant.
Oui, vous avez posé plusieurs questions, malheureusement sans réponse. Claude Perrault-Louara, est-ce qu'on doit emprisonner un journaliste pour des délits de presse? C'était ça la principale question aussi de Ferdinand.
Écoutez, Georges, je voudrais vraiment mettre sur la même longueur d'onde que tous les confrères qui sont passés avant moi. Il est clair qu'aujourd'hui, avec le rapport de l'ONG Journalistes en danger, 27 cas de journalistes qui ont été attaqués au début de l'année, c'est quand même assez inquiétant. Vous avez deux journalistes qui ont été assassinés rien que pour l'année passée, c'est aussi inquiétant par rapport à nous qui exerçons ce métier. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout ça, on doit aussi se mettre ensemble, nous qui sommes journalistes. En fait, la liberté en soi, jamais dans aucun pays du monde, on a employé la liberté. La liberté, c'est pas un cadeau. Le journaliste doit se battre pour arracher sa liberté. La liberté ne se reçoit pas comme un cadeau. C'est là que moi, je me dis...
Vous voulez dire que c'est le prix à payer?
Moi, je ne vais pas justifier ici le meurtre et les assassinats. Mais tout simplement, moi, je voudrais tirer une sonnette d'alarme aux côtés des journalistes aussi. Il est vrai d'attaquer le pouvoir, il est vrai d'attaquer tous les prédateurs, les gens qui harcèlent la presse. Je comprends très très bien l'indignation des plus confrères. Mais nous également de la presse, on doit s'arrêter, c'est dire qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la presse que nous avons ici chez nous? Quel genre de journaliste nous avons ici chez nous? Il est temps que les journalistes eux-mêmes protègent leur métier avant que l'autre puisse nous protéger. Nous-mêmes, on doit commencer par se protéger. Il est temps d'assainir la presse. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Vous le savez, Georges, on est le seul pays au monde où vous pouvez vous réveiller comme ça un bon matin. Deux petites caméras à la taille de mon coup de poing. Vous créez une chaîne de télévision qui est née à partir d'un container. Et ça passe. Vous avez des journaux ici à Kinshasa, vous n'avez que deux journalistes, les deux individus qui se retrouvent autour d'un verre le soir. Ils sont à la fois directeurs de publication, directeurs, tous les reporters et tout.
Et qui écrivent sous plusieurs pseudonymes.
Voilà. Et exactement ça. La presse doit se protéger aussi. Il y a aussi un autre problème que je voulais quand même soulever. C'est au niveau de la solidarité. Vous avez cité les cas à Franck Nguité. Ça montre suffisamment que nous-mêmes aussi, on n'est pas organisés. J'accepte que nous soyons indignés par rapport à ce qui arrive. Mais je voudrais quand même qu'il y ait une organisation. Franck Nguité a été tué aujourd'hui. Ferdinand Ferreira a parlé d'un procès qui a fini. Vous savez qu'on a rendu des jugements sans pour autant connaître les véritables mobiles. Mais combien de personnes savent aujourd'hui que le procès de Franck Nguité a été déjà clos? Parce que les journalistes n'en parlent plus. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a arrêté un journaliste comme Georges Malbrino, comme Christian Chénault en France, voyez-vous comment la presse s'est mobilisée tout derrière la presse, tout un peuple pour réclamer la liberté de toutes ces personnes-là? Il est temps que la presse s'organise. Je ne voudrais pas offenser un fidèle qui est là, mais moi je crois aussi que les structures qui organisent la presse ne font pas bien leur boulot. Moi je croyais par exemple avec la naissance de l'UNPC, Les choses allaient bien s'organiser, mais regardez, un petit processus des cartes, regardez dans quel état se trouve aujourd'hui l'UNPC. Les journalistes sont prouvés à la face du monde qu'ils sont incapables de s'organiser et de défendre leurs intérêts. Il est temps qu'on s'organise avant de pouvoir aller attaquer les prédateurs de la presse.
Alors, la présidente de l'UNPC actuellement, Chantal Kanimbo, a dit qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Elle le disait le jour même de la célébration de cette journée, quand les journalistes visitaient CCTV et Canal Kin. Alors, Deo Namujimbo, vous avez écouté aussi nos deux confrères avec leur point de vue opposé sur la responsabilité de ce manque de liberté de la presse. Est-ce que vous pouvez les départager?
Non, je donne tout à fait raison aux deux amis. D'un côté, ce qu'on disait, on ne peut pas. La liberté, c'est sa race. Moi, je suis là-dessus. La liberté, c'est sa race. Ça veut dire que si les journalistes faisaient bien leur travail, il y aurait moins d'attaques, je crois, il y en aurait moins en prison. Je veux dire par là qu'on devrait aussi, l'INPC, les autres corporations, disons, devrait aussi se pencher sur la formation des journalistes. Et par là, je vous ai dit qu'on devrait créer ou mieux structurer les syndicats, les organisations qui existent déjà, pour voir la formation des journalistes. Et on connaît à bout à bout des journalistes de certains mouvements qui ne connaissent rien de l'éthique et de la déontologie du travail. Comment se ferait que demain, ils écrivent des choses qui les jettent en prison, qu'ils parlent des choses de la radio qui font qu'ils aillent en prison ou qui, pratiquement, ils peuvent diffamer sans savoir qu'ils diffament. Voilà. Donc, moi, je suis beaucoup sur la formation des journalistes, notamment sur le site de la déontologie, mais sur la façon aussi d'écrire, la façon de parler à la radio, à la télé. Sans ça, il y aura toujours des entraves, il n'y a pas de muraille pour protéger les journalistes. Je crois que c'est d'abord de maîtriser leur travail. Voilà.
Tribune de la presse qui revient sur les faits marquants de la semaine avec les journalistes. Fidèle Moussangou du journal Le Phare, coordonnateur du journal Le Phare, avec dans ce studio, Claude Perrault-Louara de Digital Congo. En ligne de Bukavu, Deo Namujimbo, responsable de l'agence SIFI à Grand Lac, depuis Washington, au téléphone, Ferdinand Ferreira, rédacteur en chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Alors, un autre fait qui date déjà de 7 jours, la DG de la Régie des Eaux et de la SNEL, en tout cas les deux ont quitté leur fauteuil samedi dernier. Décision de la ministre du portefeuille, Jeanine Mabunda. Cette décision arrive après que les deux responsables se soient expliqués à l'Assemblée nationale. Réaction du député Takiza Lamassoso qui était à la base de la motion. Il est au micro de Alain Roung.
Je ne peux pas être satisfait de la suspension de ces deux comités de gestion. Ce n'est pas ça le but recherché. Le but recherché, je crois avoir été suffisamment clair lors de la plénière de l'Assemblée nationale. Le but recherché, c'est l'eau et l'électricité. C'est pas la suspension ou la non-suspension des comités de gestion. Que ces gens soient présents ou qu'ils soient partis, l'essentiel pour la population que nous représentons, c'est l'eau et l'électricité.
Fidèle Moussangou, la suspension des deux personnalités ne résout pas la question.
Il s'agit d'une opération de saupoudrage, de trompe-l'œil. Et puis, une décision injuste. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter un sort si cruel? Ils sont responsables à rien. D'ailleurs, si vous suivez leur défense devant l'Assemblée, ils ont convoqué l'Assemblée. Ils ont donné les diagnostics. Les mots, on les connaît. Aujourd'hui, on les a changés. Rien ne change. Le courant n'est pas là. L'eau n'est pas là. Ici, ça, je suis convaincu, il s'agit d'une opération pour cacher les vrais problèmes. Le gouvernement guinéen, je m'excuse beaucoup, refuse de mettre la main à la pâte.
Donc, vous voulez dire qu'il fallait à tout prix une victime?
Non, justement pour eux, c'est parce qu'ils cachent une opération. Quelle est la face cachée? La face cachée, tout simplement, on veut contenter quelques-uns des cercles du pouvoir et distraire l'opinion nationale vis-à-vis des vrais problèmes. Le problème, ce n'est pas de changer les chefs. Le problème est d'abord de laisser les comités de gestion gérer leurs fonds en devise et en francs congolais. Et là, on les responsabilise. Le problème, c'est d'obliger l'État de payer cette facture d'eau et d'électricité à partir du président de la République. Parce que maintenant, quand quelqu'un passe ministre, il ne paye plus l'eau, il ne paye plus l'électricité, il ne paye même pas le téléphone, s'il y en a. Alors, il faut commencer par là. Comme ça, les recettes vont augmenter. Ensuite, laisser au comité de gestion le soin de gérer même le contentieux qui se trouve entre les abonnés et le producteur. Voilà le point du problème. Et laisser ces comités de gestion négocier des financements à l'extérieur. En droit des garanties. L'État peut se porter garant. Admettons, la SEL avait 100 millions de dollars. Mais il y a des banques qui ont 5 millions de dollars à donner la semaine. C'est issu d'avoir la garantie de l'État. Alors ici, je vous dirais quelle est la face cachée. C'est rigolo, il faut que je le dise, parce que ça fait mal au cœur. Vous remarquerez bien là, on a placé des gens, en fait des clients politiques.
On les a déjà remplacés,
Non, ce qui arrive, c'est quoi? C'est des clients politiques. Regardez la configuration. Écoute, je suis congolais, je connais. On place des gens parce que bientôt, il y aura des financements. Et ces gens-là sont chargés de conjuguer le verbe manger à l'indicatif présentatif. Je mange, tu manges, ils mangent, nous mangeons. Voilà l'opération.
Alors, Deo Namujimbo, plusieurs journaux de Kinshasa ont estimé que la suspension des deux, de l'ADG, de la régie des eaux, de la SNEL, c'était un signe pour dire qu'on commençait déjà à nommer les mandataires dans les entreprises publiques. Est-ce que c'est votre analyse aussi?
Bon, alors là, je vais vous donner mon analyse personnelle de Deo Namujimbo qui n'engage pas l'agence de presse officielle. Il dit que c'est bien, je suis vice-président aussi qui vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, le journal de Kinshasa, je ne les ai pas vus. Il n'y a aucun journal de Kinshasa qui arrive pratiquement au Bukavu. Mais moi, je me pose la question, pourquoi seulement suspendre le comité de gestion de la semaine de la régie des eaux? Il faut changer le dirigeant. Pourquoi commencer par cela seulement? Pourquoi pas le fils de route? Pourquoi pas le chef de la voirie urbaine, de toutes les fonciers, etc. Ma question en fait. Parce que bon, s'il faut changer les choses, il faut changer en profondeur. Il ne faut pas, je crois, prendre des groupes de ministère pour des raisons que je ne connais pas. On a visé ces deux-là. Mais est-ce que ailleurs ça va mieux? Voilà ma question.
Claude Perrault-Louara, peut-on dire que quand on commence par la régie des eaux et la SNEL, on veut s'attaquer aux cinq chantiers, peut-être?
Je voudrais peut-être tenter de répondre à la question de notre confrère qui a fait des coups à vous. Je crois que la régie des eaux et la SNEL offrent des services qui ont un impact directement visible sur la population. Vous savez, quand vous manquez d'eau et quand vous manquez du courant, ça s'effond immédiatement. Alors que l'Office des routes, par exemple, je ne voudrais pas ici négliger l'importance des infrastructures routières, exerce également de l'importance sur le plan de la société, mais une importance qu'on ne voit peut-être pas immédiatement. Moi, je voudrais plutôt dire que par cette suspension, j'ai l'impression que le gouvernement de Gizenga et les deux ministres, parce qu'il faut noter que la suspension était le fruit de deux arrêtés interministériels signés d'un côté par le ministre des Portefeuilles et son collègue de l'énergie, Salomon Banamouyere, j'ai l'impression qu'ils ont tout simplement voulu donner l'impression aux gens que, enfin, rien ne sera plus comme avant. Mais je crois qu'au-delà de ça, ils ont réussi parce qu'au lendemain de cette suspension, moi j'ai vu la population en train d'applaudir la suspension de ces deux comités de gestion. Mais au-delà de ça, il faut aller au-delà. Il ne suffit pas seulement de suspendre les gens. Parce que vous suspendez les gens aujourd'hui, mais le monde est toujours là. Fidèle a dit, on n'a pas de courant, on n'a pas de l'eau. Si par exemple, aujourd'hui, les deux ministres prouvent que les deux comités de gestion suspendus ont été incompétents et que leur culpabilité est prouvée, j'attends qu'un audit soit par exemple édité. Ils ont été à la SNEL et à la régie des eaux, parce que parmi les griefs qui sont retenus contre ces deux comités de gestion, on dit qu'ils n'ont pas fourni d'efforts pour assainir les finances. Qu'est-ce que le ministre voudrait dire? On veut tout simplement dire que derrière, il y a une gestion opaque. Lorsqu'on parle d'une gestion opaque, il est temps que la justice fasse enfin son travail.
Donc vous voulez dire qu'on ne doit pas se limiter à la suspension?
Mais j'ai dit la suspension, merci, nous avons applaudi, vous nous avez donné l'impression que plus rien ne sera comme avant, merci beaucoup, mais il faut aller au-delà, il faut diligenter un audit, et si ces gens-là, il est clairement prouvé qu'ils ont trompé le maire dans la gestion, il faut les arrêter, il faut les déférer devant la justice. Je voudrais donner un exemple, par exemple. On parle aussi des équipements qui sont vétustes. Rappelez-vous, aujourd'hui, le barrage d'Inga tourne à ralenti. Tous les 8 turbines sur les 14 et 50 du barrage est par terre et ça fait longtemps que la situation dure. On est là comme si les gens ne s'en occupaient pas. Inga 2 avec les 6 turbines. Les 6 sont pratiquement par terre et personne ne s'en occupe. La régie des eaux, je vais vous donner un exemple, par exemple. La régie des eaux a besoin de 25 réservoirs capable de produire environ 300 000 cubes mètres d'eau. Mais aujourd'hui, la régie des eaux n'en compte que 2 avec une capacité de 24 000 cubes mètres d'eau. Vous voyez la différence?
C'est la même chose aussi pour le réseau des câbles.
Justement, quand je parle du barrage d'Inga et quand je parle de la régie des eaux, c'est pratiquement la même chose, la vétusté des machines. Moi, je voudrais vraiment dire ici que le ministre, les deux ministres, parce que c'était un arrêté interministériel, doivent aller au-delà. À part le fait qu'ils doivent diligenter une enquête, j'attends que cette opération-là se poursuive. C'est là que c'est intrajuste. Pourquoi on doit suspendre les comités de gestion de la régie des eaux et pas les autres? Il est temps que la loi, il est temps que l'État prenne enfin des décisions. Vous savez que la régie des eaux et la SNEL sont parmi les entreprises qui font rentrer beaucoup de l'argent dans les caisses de l'État. Il n'existe pas que la régie des eaux. Il y a la RVA, il y a l'ONATRA, il y a
l'OPIDA, tout ça.
Il faut diligenter les enquêtes. Il faut enfin nous donner l'impression qu'enfin, on a un gouvernement, on a un État qui peut éventuellement s'occuper de nous.
Ferdinand Pereira, vous avez écouté nos confrères. Quel est votre commentaire à ce sujet?
Oui, alors je dois dire, j'ai pas vraiment suivi ces deux dossiers de très près cette semaine, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt effectivement ce qui a été dit et je suis en gros d'accord avec les arguments qui ont été avancés. Il s'agit de savoir maintenant si ces suspensions sont dues à un clientélisme politique, comme l'a dit un des confrères, ou est-ce qu'il s'agit de rendre ces comités plus performants. Je disais la semaine dernière qu'il est très important pour le gouvernement des Yinga de donner assez rapidement à la population congolaise des signes visibles que quelque chose a changé avec cette Troisième République. Et bien quoi de plus éloquent que dans le domaine de l'eau et de l'électricité qui ont un impact direct sur la population jour après jour. Il n'y a pas un meilleur secteur où on peut montrer que les choses sont en train de s'améliorer. Donc je donne le bénéfice du doute au gouvernement Kizenga. Je pense qu'il est décidé à améliorer les choses, il est décidé à lutter contre la corruption et que peut-être, on l'espère, ces changements à la tête de ces deux organismes sera dans le sens de les rendre plus performants, de faire en sorte que leurs services parviennent à la population plutôt que l'argent soit dilapidé comme ça l'a été par le passé par des affectations qui avaient tout l'air de clientélisme politique.
En fidèle Monsango, on a entendu Claude Perrault Louara dire aussi que la population a applaudi. Comment vous analysez ça?
Bon, écoutez, la population, il ne faut pas tenir compte des quelques applaudisseurs qui apparaissent à la télévision, on le sait, mais la population n'a pas encore son compte. L'eau n'est pas là, l'électricité n'est pas là. Moi, chez moi, quand j'arrive dans mon quartier, l'exception, c'est de voir qui est le courant. C'est ça l'exception. Donc, disons, la règle, c'est quand il n'y a pas de courant. Mais l'exception, c'est quand je n'en ai pas.
Mais on peut noter aussi cette semaine que certains habitants de la Rouachi à Lubumbashi ont eu quand même de l'eau après 10 ans.
Écoutez, ça c'est momentané, la situation est pourrie. Comme dit Perrault ici, ce n'est pas une question du comité de gestion. La mort de la SNEL a commencé il y a plus de 15 ans, quand on a dilapidé l'argent de la SNEL. On a oublié que les turbines sont des machines qu'il faut renouveler, qu'il faut entretenir. On a oublié que les câbles qui transportent le courant d'Inga, Kinshasa, Lubumbashi sont des matériaux qui ont une durée de longévité. On a oublié ça. On s'est mis à boucler l'argent de la SNEL. C'est-à-dire qu'on dit que tant qu'on ne va pas laisser la gestion des finances en devise au comité de gestion pour qu'ils rendent compte, eh bien, ça ne marchera pas. Quand c'est le ministre, c'est la présidence. Alors, ces gens n'ont pas la liberté, même d'acheter, je vous donne un exemple. Vous savez qu'un transformateur coûte 7000 dollars à Kinshasa. Montez ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on vous demande de faire quelque part? Un coup de fil, ah, tiens, mettez 15 000. Ça, je donne l'aveu d'un dirigeant de la semaine. Il me dit, on nous dit, mettez 15 000.
Mais moi, la différence, ils auraient dû démissionner si, au-delà de ça aussi, la responsable, la logique voudrait que lorsqu'on n'a pas les pouvoirs et ses moyens, qu'on démissionne aussi. Au-delà de tout, faut quand même pas aussi disculper ces comités de gestion gratuitement comme ça. C'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec.
Il y a un problème.
Vous n'êtes pas d'accord, on vous comprend, alors on va vous écouter un à un.
Il y a un problème. Il y a ceci. Moi, je suis nommé à dire, j'ai droit à la vie, j'ai droit à un salaire décent, j'ai une famille et des enfants. Alors, j'ai trouvé une situation pourrie. Je pose le diagnostic à celui qui a la clé de la solution. Alors, la personne ne s'exécute pas. Je n'ai pas démissionné. Je dis non. La preuve, quand ils ont comparu devant l'Assemblée nationale, ils ont dit, voilà la situation, voilà les solutions. Devant l'Assemblée, ils ont été applaudis. Mais qui a la solution? C'est pas eux. Et pourquoi vont-ils démissionner? Ils démissionneraient si ils avaient les moyens et ils ne peuvent pas les utiliser.
Nous tendons déjà vers la fin. Perrault, vous vouliez dire quelque chose?
Non, je disais que moi, je n'attends pas à disculper gratuitement comme ça ces comités de gestion. Il est vrai qu'ils ont été suspendus. J'attends que les deux ministres qui ont signé les deux arrêtés interministériels font un peu plus que cette opération des suspensions. J'estime que moi, lorsque vous n'avez pas la politique de vos moyens, il faudrait également démissionner. S'ils n'étaient pas capables de les faire, ils ne vont pas démissionner. Mais au-delà de ça aussi, il faut que l'État prenne en charge. Il faut que... Moi, j'attends, par exemple, qu'aujourd'hui, Fidel a parlé des clientélismes politiques des gens qui sont nommés. Moi, je voudrais quand même qu'avant la mise en place de ces nouveaux comités, que les nouveaux comités nous apportent un bilan, que les nouveaux comités nous apportent un plan de redressement avant de commencer les travaux. Parce qu'ils ont trouvé une situation assez pourrie. Comment ils entendent améliorer la situation de la distribution d'eau et de l'électricité partout en République démocratique du Congo? Avant leur mise en place, je voudrais qu'ils nous présentent un plan de redressement de ces deux entreprises.
30 secondes pour terminer. Déo, Yo, Namujimbo, qu'est-ce que vous dites en conclusion sur ce dossier, signé la Régie des Eaux?
Oui, alors, merci beaucoup pour le mot de la fin. Ce que j'ai dit en continu de ce dossier, c'est que moi, je pense qu'on ne devrait pas s'acharner à suspendre, à révoquer le comité de gestion, mais on devrait penser aussi à renouveler le matériel. Parce que le nouveau comité de gestion qu'on va mettre en place à la semaine à la Régie des Eaux, ils vont retrouver, si par exemple, le même matériel des yeux qui date de l'époque coloniale. Mais je pense qu'il faudrait renouveler le matériel, mais même moderniser même le matériel. Ici, on nous dit à Bukavu qu'on n'a pas d'électricité parce que le niveau de l'eau dans le lac a baissé. Mais on voit dans les pays d'Israël, il n'y a pas de rivière, il ne pleut pas, mais il y a de l'électricité. Il faut penser aussi à renouveler le matériel et pas à changer de tête dans les comités de gestion volaire.
Merci beaucoup, Deona Mujimbo, Fidel Moussangou, ainsi que Ferdinand Ferrella et Claude Perrault Louara, Tribune de la Presse. C'est fini pour aujourd'hui. Avec tout le plaisir, on vous retrouve prochainement. Merci, bonne suite de programme sur Radio Capi.